Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On arrive au travail avec une boule de stress en se demandant qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va faire. On est tous perturbés par ça.
Inquiétude ce soir, vous venez de l'entendre, 6 nouvelles villes devraient basculer en alerte maximale, mais 2 d'entre elles pourraient bénéficier d'un sursis en attendant de nouveaux arbitrages à la fin du week-end, on vous dit tout dans un instant.
Les sombres prévisions de l'ARS, une marée de nouveaux malades du coronavirus va déferler sur l'Île-de-France. Le plan blanc est renforcé dans toute la région.
L'émotion après l'agression ultra-violente de 2 policiers hier soir dans le Val d'Oise, 3 fugitifs armés toujours activement recherchés.
Le foot français déjà en grande difficulté en raison de la pandémie. Va-t-il plonger dans une profonde crise financière ? Mediapro veut en effet renégocier les jutes au droit TV.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,61% à 4 911 points.
Et puis la météo avec Anissa. Bonsoir Anissa. Bonsoir. Encore du gris demain dans le Nord.
Oui, demain la journée va ressembler à celle d'aujourd'hui avec sur la moitié Nord de la grisaille et beaucoup plus de soleil dans le Sud. Les températures seront encore douces avant une baisse prévue pour samedi. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et alors que l'épidémie gagne encore du terrain dans toute la France, le ministre de la Santé devrait d'ici quelques instants maintenant fournir de nouveaux chiffres et dans la foulée sans doute annoncer des restrictions supplémentaires.
Oui, avec de nouvelles métropoles qui pourraient passer en alerte renforcée. On parle de Lyon, on parle de Saint-Étienne, Grenoble et Lille.
Et Justine, justement, est patronne d'un bar rue Royale à Lille. Elle redoute d'apprendre ce soir de mauvaises nouvelles.
C'est de la colère, du stress, de l'injustice parce qu'au final, nous, on va peut-être fermer. Mais les jeunes vont faire quoi ? Ils vont se retrouver dans des appartements, faire des soirées où là, ils n'auront pas les mesures que nous, on met en place pour justement combattre ce virus. Et malheureusement, c'est nous qui en pâtissons derrière. On arrive au travail avec une boule de stress en se demandant à 18h, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On est tous perturbés par ça.
L'inquiétude de cette propriétaire de bar lillois au micro d'Europe 1 de Maximilien Carlier.
On attend donc incessamment sous peu les annonces d'Olivier Véran. Le gouvernement se s'est attendu au tournant alors que les Français ont de plus en plus de mal à comprendre une communication parfois contradictoire.
Oui, effectivement, l'idée c'est de ne pas reproduire l'exemple de Marseille, fermeture des bars et des restaurants, puis réouverture une semaine plus tard.
Alors un nouveau conseil de défense s'est tenu hier. Louis de Raguenel, vous avez des informations sur les arbitrages et sur ce qui doit potentiellement être annoncé dans quelques minutes, donc sauf contre-ordre, bien sûr, de dernière minute.
Oui, et je peux vous dire que c'est au cours du Conseil de défense hier à l'Élysée que l'exécutif a décidé de basculer à partir de samedi plusieurs grandes villes en état d'alerte maximale, Saint-Étienne, Grenoble, Lyon et Lille. En théorie, Toulouse et Montpellier devaient aussi passer en état d'alerte maximale, mais pour ces deux villes, le Conseil de défense a souhaité se laisser un peu plus de temps, le temps d'un week-end, pour échanger avec les maires et les autorités locales, une sorte de sursis. Et il faudra donc attendre dimanche soir pour les habitants de Toulouse et Montpellier pour être fixés.
Et a priori, ailleurs en France, dites-nous, il y aura d'autres bonnes nouvelles annoncées ?
Oui, il y aura des bonnes nouvelles. Toujours selon l'arbitrage du Conseil de défense d'hier, 3 départements doivent passer de la zone orange à la zone verte, la Haute-Marne, le Morbihan et la Nièvre. Des mesures qui, sauf coup de théâtre, devraient être annoncées par Olivier Véran dans quelques instants.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. On suit donc cette conférence de presse du ministre de la Santé qui sera accompagnée du ministre de l'Économie. C'est important car il va aussi y avoir des annonces de ce côté-là. On vous tient au courant, évidemment.
Évidemment. Une certitude en tout cas, le plan blanc vient d'être réactivé en Île-de-France. Victor Dolande, la région tente de se préparer à l'arrivée d'une marée de nouveaux malades. Ce sont les termes employés.
Oui, des termes vraiment pesés par Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Plus de 40% des lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid dans toute la région. Ce chiffre grimpe même à 60% en Seine-Saint-Denis. La deuxième vague, c'est une réalité actuelle pour la capitale et ses environs. Et pour éviter la saturation dans les services de réanimation, l'ARS a donc activé son plan blanc renforcé. Concrètement, ce plan blanc permet de mobiliser tout le personnel nécessaire pour renforcer la prise en charge des patients Covid, la réserve sanitaire, des étudiants en médecine. Ils sont 1400 à se tenir prêts. Le plan blanc renforcé permet aussi de déprogrammer certaines opérations. Ça se fera par palier cette fois, je vous explique. Actuellement, 450 patients sont en réanimation en Île-de-France. Quand on atteindra les 700, un quart des opérations seront déprogrammées. Et quand la barre des 1000 patients en réanimation sera franchie, 60% des opérations seront déprogrammées et ce seuil pourrait arriver très vite. D'après les projections de l'ARS, on devrait l'atteindre entre le 27 octobre et le 1er novembre prochain.
Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Le regard de l'épidémie qui touche également nos voisins. Les autorités allemandes notamment parlent d'un risque de propagation incontrôlée avec des chiffres de contamination exponentielle.
En Italie, le port du masque est désormais obligatoire partout en extérieur, comme à Paris en France, et fortement recommandé à la maison lorsque l'on reçoit des amis. Port du masque obligatoire également dans toute la Pologne, et cela à partir de samedi.
Et puis à Madrid, le gouvernement régional demande aux habitants de ne pas sortir de la ville, et ce malgré le rejet par la justice des mesures de bouclage partiel de la capitale espagnole.
18h05, la suite de votre journal. Dans l'actualité également donc ce soir, l'un d'eux lutte encore contre la mort. Stupeur et colère après l'agression hier soir de deux policiers dans le Val-d'Oise.
Agression sauvage, barbare et gratuite, dénoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Ils ont... le mot roué de coups est trop léger. Massacré, littéralement, ces deux policiers. Pendant un moment où ils ont ensuite pris leurs armes pour tirer manifestement à cette reprise. Et 6 fois, les balles ont touché. Les policiers, dont un, je voudrais ici le dire, se bat pour la vie. Ce sont des actes de grande sauvagerie. Non seulement une sauvagerie qui est devenue quotidienne, mais contre des policiers et dont personne ne pouvait manifestement ignorer qu'ils étaient des policiers.
Le ministre de l'Intérieur au micro européen de Nicolas Feldman, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur les lieux de cette agression et qui a donc eu lieu, Gladys Laffitte, lors d'une mission a priori tout à fait anodine, puisque ces policiers étaient en planque pour un repérage à bord d'une voiture banalisée dans une zone industrielle.
Oui, une surveillance, une mission simple de vérification pour ces deux enquêteurs de la police judiciaire de Cergy. Il est à peu près 22h quand 3 hommes repèrent la voiture. Ils ne savent pas que les occupants sont 2 policiers. Ils pensent même à des malfaiteurs ou des concurrents. Les agresseurs sortent alors de la voiture, les frappent violemment, les victimes crient qu'ils sont policiers, espérant sans doute que les coups cesseraient, mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. Ils se font voler leurs armes et tirer dessus, 2 fois dans les jambes pour le major de 45 ans et 4 fois dans le bas du corps pour le gardien de la paix de 30 ans, qui souffre aussi d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est toujours engagé malgré une opération en urgence à l'hôpital la nuit dernière. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, saisis de l'enquête, vont rechercher s'il existe des images de vidéosurveillance qui pourraient les aider. La voiture des policiers va être passée au peigne fin à la recherche d'éventuelles traces ADN des agresseurs. 3 hommes donc toujours activement recherchés. Il va falloir maintenant les identifier, les localiser. Ils ont emporté avec eux les 2 armes des policiers et le téléphone portable de l'un d'eux.
Gladys Laffitte, à qui on souhaite la bienvenue au sein du service police-justice d'Europe 1.
Bienvenue Gladys. Merci. Le bilan des intempéries s'alourdit dans les Alpes-Maritimes. Le corps de l'un des 2 pompiers qui était porté disparu a été découvert aujourd'hui.
Oui, ce qui porte à 6 le nombre des victimes. 2 communes sont par ailleurs de nouveau accessibles dans les Alpes-Maritimes par voie ferrée. Il s'agit de Fontan et de Saorge, où les premiers TER ont pu effectuer 2 allers-retours aujourd'hui. Pour l'instant, la ville de Tendel n'est toujours accessible que par hélicoptère.
L'allongement de la durée pour pratiquer une IVG adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale après 3h30 de débat sur un sujet extrêmement sensible.
Oui, 12 semaines au lieu de 14 semaines. Attention, le texte doit encore être examiné par le Sénat.
Et pour mieux comprendre, on en parlera tout à l'heure avec les grandes voix à 18h30.
Y aura-t-il un second débat entre Donald Trump et Joe Biden ?
Pour raisons sanitaires, oui, ce débat devrait être organisé à distance virtuellement, sauf que, eh bien, Donald Trump vient de refuser. Ce n'est pas acceptable, dit-il.
Un débat, ça n'est pas rester assis derrière un ordinateur, c'est ridicule. On peut vous couper la parole n'importe quand.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal, Isabelle Millet, à 18h10, et ce coup de tonnerre dans le monde du football. Mediapro, qui diffuse la Ligue 1 et la Ligue 2, depuis cet été, veut renégocier à la baisse le montant des droits télé.
Autant vous dire que c'est une situation explosive. Jean-François Pérez, qui pourrait même entraîner à terme les défaillites en cascade.
Oui, l'heure est clairement à l'inquiétude chez les dirigeants du foot français. Personne ce soir ne souhaite s'exprimer publiquement, ni les présidents de club, ni la Ligue, ni même Mediapro, propriétaire de la chaîne Téléfoot, qui un mois et demi à peine après le début de son contrat de diffuseur, souhaite donc payer moins cher un spectacle jugé dégradé. Et pour cause, quasiment pas de public, donc pas d'ambiance dans les stades. Des clubs en crise qui ont acheté très peu de joueurs cet automne et donc fatalement des abonnements à Téléfoot nettement inférieurs à ceux escomptés. Tout cela ne vaudrait donc pas les quelques 800 millions d'euros dont Nouveau Média Pro doit s'acquitter chaque année. À la Ligue, après avoir encensé le groupe espagnol, on enrage. Pas question de dévaluer les droits, ni même d'accepter un retard dans le versement de l'échéance d'octobre. 120 millions, les clubs ont déjà beaucoup souffert, le coût pourrait être fatal. Les droits TV représentent environ 40% de leurs recettes. Le gouvernement dit suivre le dossier de près. Faute d'un accord, la suite pourrait se dérouler devant les tribunaux. Certains envisagent carrément une rupture de contrat et la recherche de nouveaux diffuseurs dans les prochains mois. Le bras de fer ne fait que commencer.
Jean-François Pérès, chef du service des sports d'Europe 1, on suivra ça attentivement. Et à Roland-Garros, demi-finale avec une journée 100% féminine aujourd'hui.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Trois notes de basse, on adore.
Corinne Boulon, on vous retrouve en direct. Alors Corinne, on connaît déjà la première finaliste. C'est la jeune Polonaise de 19 ans, Iga Świątek, qui a battu la qualifiée argentine Podowroska. On attend de connaître maintenant son adversaire et ça se joue en ce moment.
Oui, effectivement, entre Sofia Kenin et la tchèque Petra Kvitova, et c'est l'américaine Kenin, sixième mondiale, qui mène 6-4, 5-3. Et c'est très serré sur le service de Kvitova à l'instant, parce que l'américaine est à deux points d'accéder en finale. Sa deuxième finale en Grand Chelem, vous imaginez bien la tension sur le terrain en ce moment avec cette jeune américaine de 21 ans, véritable pile électrique, qui est donc tout près d'accéder à sa deuxième finale de Grand Chelem pour rejoindre la Benjamine Iga Świątek, la Polonaise de 19 ans.
Merci beaucoup Corinne Boulou en direct. Femme toujours, notez que l'Académie des Nobel a encore une fois déjoué les pronostics. Elle a récompensé aujourd'hui la poétesse américaine Louise Gluck, prix Nobel de littérature. Si vous ne la connaissez pas, je vous rassure, moi non plus. Il paraît qu'elle est formidable, mais il faut dire qu'il y a très peu de traductions de son œuvre en France. Ça va sans doute changer, on l'espère, avec ce prix.
Oui.
Même si la poésie, c'est comme le cinéma, j'imagine, c'est encore mieux en version originale.
Oui, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle avait fait sa fac, mais qu'elle n'avait pas validé ses diplômes.
Comme
quoi ? Elle est autodidacte d'une certaine manière, comme moi, donc c'est un beau clin d'œil.
On aime
beaucoup
ça.
Merci. Isabelle, et à tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa, qui n'a pas non plus tous ses diplômes, mais qui connaît bien la météo. Ça reste gris et pluvieux demain au nord.
Oui, effectivement, la petite perturbation qui est arrivée aujourd'hui va continuer d'avancer demain avec en début de journée de la Vendée à la Lorraine en passant par le bassin parisien. Un ciel couvert avec quelques averses le matin. De l'Occitanie à l'Auvergne, attention si vous nous écoutez dans le sud-ouest. Demain matin, encore pas mal de brouillard en début de journée. Sur le bassin méditerranéen, là ce sont les entrées maritimes, vous avez l'habitude dans la région. Et dans l'après-midi, des Pays de la Loire au territoire de Belfort, le ciel reste bien couvert avec des averses. À l'avant de la perturbation dans le sud-est, il fait beau encore demain, plus nuageux sur la façade atlantique et de la Bretagne aux Ardennes, eh bien nous aurons une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures, elles sont douces, profitez-en, ça va bien baisser samedi. 5 à 14 degrés demain matin, 5 à Aurillac, 14 la maximale pour Paris et au meilleur de la journée, 15 à Dunkerque, 17 à Rennes et Paris, 19 à Biarritz, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Lyon, 23 à Bastia et 24 à Nîmes.
Merci Anissa. Et à noter, on l'apprend à l'instant, que Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Étienne passent, ça y est, en alerte maximale liée au Covid-19, évidemment, à partir de samedi, avec sans doute des mesures restrictives à la clé. On en parlera tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'homme qui murmure à l'oreille des présidents. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Il a servi 4 présidents de la République et en a fait un livre sur ses 40 ans au service de l'État. Bonsoir Jean-Pierre Jouyet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Alors ce
à vous.
Livre, il s'intitule « L'envers du décor », c'est aux éditions Albin Michel. Un peu plus de 300 pages sur les coulisses du pouvoir et notamment votre relation avec Emmanuel Macron que vous qualifiez de séducteur indifférent. C'est le nom que vous donnez au chapitre. Alors tout est dit d'une certaine manière, c'était votre protégé et il vous a abandonné en quelque sorte. Vous n'avez plus aujourd'hui, je crois, de rapport direct avec lui. Est-ce que c'est une blessure d'une certaine manière ?
C'est une blessure affective. Mais je dois dire que je comprends aussi qu'étant devenu président de la République, il ait eu d'autres priorités. Mais de ne plus le voir a été une blessure affective.
Mais vous allez plus loin, Jean-Pierre Jouyet. Page 40, par exemple, vous écrivez « Derrière le fervent disciple, je n'avais pas vu pointer le nouveau roi ».
C'est exact. C'était le fervent disciple de François Hollande. Il avait fait toute sa carrière, j'allais dire, entre 2011 et 2016 auprès de François Hollande. Et je n'avais pas vu pointer ce côté jupitérien, à la différence d'autres de mes amis qui, eux, l'avaient mieux compris que moi.
Oui, et vous complétez en disant, en l'espace de 24 heures, je suis passé du statut de mentor à celui d'infréquentable. J'accuse le coup, c'est un peu ce que vous nous dites également ce soir. Comment est-ce que vous jugez Jean-Pierre Jouyet, sa politique à Emmanuel Macron, notamment, tiens, sur la crise du Covid en ce moment?
Sur la crise du Covid, c'est une des pandémies les plus dures à traiter, donc je comprends toutes les difficultés qu'il a pu y avoir. Mais ce que je constate, c'est que les Français sont perdus, qu'il y a une anxiété certaine dans la société française et qu'il y a un écart croissant entre les politiques et les citoyens. Et qu'il y a aussi une montée des inégalités et que nous ne sommes pas sortis de la crise économique et financière, puisque les sommes qui sont en jeu, on appelle ça de la relance.
Oui, enfin, 100 milliards.
C'est beaucoup plus de l'indemnisation, c'est beaucoup plus des compensations que de la relance sur des projets nouveaux.
Donc c'est un plan de compétitivité plutôt qu'un plan de relance. C'est vrai qu'on l'a... On l'a beaucoup dit d'une certaine manière.
Mais ouais, plan de compétitivité, si on veut.
A-t-il des convictions, Emmanuel Macron? Puis après, on parlera évidemment de votre expérience au service de l'État et des autres présidents que vous avez eu à côtoyer.
Vous
en parlez quand même énormément. Je vous pose la question parce que vous dites qu'il s'est toujours présenté comme un homme de gauche, social, et aujourd'hui, il est entouré d'hommes de droite. Est-ce que c'est une forme d'opportunisme ou il y a de la conviction derrière ça?
Écoutez, moi je l'ai toujours connu comme homme de gauche, social-démocrate, n'approuvant pas que j'aille chez Nicolas Sarkozy et toujours, j'allais dire, à ma gauche. Et je crois que là, au vu de ce que sont les tendances de la société française, il essaye de rassembler sur sa droite. Donc incontestablement, ce n'est pas la personne que j'ai... connu dans les années 2010.
Qu'est-ce qui vous a séduit, justement, chez Nicolas Sarkozy?
Ce qui m'a séduit chez Nicolas Sarkozy, c'est lorsque nous avons travaillé ensemble, qu'il était ministre des Finances et que j'étais directeur du Trésor. C'est son côté direct, c'est son côté ouvert, c'est qu'il a une certaine empathie et c'est quelqu'un... Vous voyez, là, je compare aussi les différentes crises dans le livre de 2008, de ce que j'ai connu avec François Hollande sur les attentats et ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid-19. Bon, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Sarkozy, ça décidait. Oui. Avec Hollande aussi, dans la gestion des attentats, on n'attendait pas et on décidait sur le Covid, comme vous l'avez constaté. Bon, bah, il y a eu quand même quelques atermoiements et Édouard Philippe s'était montré, heureusement, parfois plus clair.
Sur la modernisation de l'État, Jean-Pierre Jouyet, c'est l'un de vos grands regrets, dites-vous dans ce livre, ne pas avoir suffisamment travaillé à moderniser le fonctionnement de l'État. D'ailleurs, c'est assez dramatique ce que vous dites. Les ministres passent, les majorités aussi, mais ceux qui font tourner la boutique, ce sont toujours les mêmes. Tout change, mais rien ne change. C'est un peu désespérant tout de même.
Oui, c'est un vrai problème de l'administration française et d'autres administrations. Hein. Je dois dire qu'on n'est pas les seuls en Europe de ce point de vue-là. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons une administration qui travaille beaucoup trop en silo, qu'il n'y a pas assez de coordination et d'échange d'informations entre les administrations. Et vous l'avez vu lors de la crise du Covid-19. Et nous n'avons pas réussi depuis 30 ans la décentralisation des pouvoirs, c'est-à-dire que les Français ne savent pas en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'écologie, qu'est-ce qui est réellement compétent entre des collectivités locales, l'administration. Et comme je le dis, au Royaume-Uni, ce qui n'est pas écrit est permis. Oui. En France, tout ce qui n'est pas écrit est interdit.
Bien, je vais vous poser une question qui n'est pas très politiquement correcte justement sur la modernisation de l'État et sur les hommes qui les incarnent, Jean-Pierre Jouyet. À une époque où la parole publique est remise en cause, où une défiance énorme, vous le savez, entoure les politiques, le fait qu'un homme, aussi bon et légitime soit-il, je parle évidemment de vous Jean-Pierre Jouyet, passe d'un président à l'autre, est-ce que ça ne donne pas le sentiment que les politiques, c'est un peu tous les mêmes finalement, que ça soit la droite ou que ça soit la gauche?
Non, ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, c'est justement d'expliquer aux Français que les politiques sont très différents. Ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas les mêmes rapports, je veux dire, au monde économique, au monde culturel, ils n'ont pas le même tempérament. Et je reviens à votre première question. Oui. Il n'est pas besoin de changer de président pour avoir une politique différente que celle sur laquelle on a été élu CF, ce qui se passe actuellement.
Dans ces 40 ans d'histoire politique que vous nous racontez dans ces 300 pages, Jean-Pierre Jouyet, L'envers du décor, c'est le titre de votre livre. Est-ce que, peut-être au-delà du déjeuner que vous évoquez avec François Fillon, qui a donné lieu à notamment ce livre, Un président ne devrait pas dire ça, est-ce que vous avez des regrets ?
Ce que j'ai comme regret, c'est ce que vous avez dit, c'est de ne pas avoir eu de mission qui permette véritablement de faire de la simplification administrative et de faire en sorte qu'il y ait, comme au Royaume-Uni, un meilleur échange d'informations auprès des citoyens et de ramener les administrations à proximité des citoyens et de limiter le nombre d'autorisations qu'il faut pour faire quelque chose ou pour monter une entreprise dans ce pays. Donc ça, c'est mon
regret principal
au service de l'État. Je n'ai jamais pu le faire. Mon second regret, c'est de ne pas avoir profité de toute l'expérience que j'avais en province et notamment en Normandie,
oui.
que je connais bien et que j'ai vu évoluer vers le Rassemblement national, pour être très clair avec vous, et où j'ai vu l'exaspération monter, et de ne pas avoir su porter, notamment auprès de mon ami François, de ne pas lui avoir su lui porter les sentiments que je ressentais en province et qui n'était pas ce qu'on ressentait à Paris.
Oui, la réalité du terrain.
Voilà.
Ce sera ma dernière question, justement. Est-ce que votre ami François Hollande, évidemment, sera candidat, selon vous, en 2022 ? Et est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut relancer l'esprit de gauche qui manque aujourd'hui dans le pays ?
François Hollande est très certainement l'homme de gauche le plus intelligent, le plus vif. Il a une grande expérience du pouvoir. On a véritablement mis à mal, à tort, son mandat. Et là aussi, les équipes actuelles l'ont fait alors qu'ils y avaient collaboré.
Oui.
Et je crois qu'il sera présent dans la campagne, mais je ne peux pas en dire plus parce que, comme vous le savez mieux que moi, tout cela est à 2 ans près incertain.
Incertain. Merci Jean-Pierre Jouyet, je rappelle votre livre.
Merci à vous.
Ce sont des mémoires d'une certaine manière d'ailleurs.
Oui.
L'envers du décor, oui. Chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres à 18h30, Isabelle Millet.
Et 4 grandes métropoles passeront en alerte maximale dès samedi. Il s'agit de Lyon, de Saint-Etienne, de Grenoble et de Lille. Annonce ce soir du ministre de la Santé qui appelle les Français à ne pas relâcher leurs efforts, en particulier dans le cadre familial. Porter le masque et garder de la distance, y compris à la maison. En Ile-de-France, le plan blanc est renforcé face à la crainte d'une marée de nouveaux malades. La pression est de plus en plus forte dans les hôpitaux franciliens. De son côté, le ministre de l'Économie vient d'annoncer ce soir un élargissement et un renforcement du fonds de solidarité pour soutenir les entreprises qui jusqu'à présent n'étaient pas concernées. Certaines activités qui en étaient exclues, comme les fleuristes, les blanchisseries, les bouquinistes ou encore les arts de la table, les graphistes, elles seront ajoutées à la liste des bénéficiaires. Le gouvernement va également élargir cette aide aux entreprises de ces secteurs jusqu'à 50 salariés et abaisser le seuil jusqu'à 70% de perte de chiffre d'affaires contre 80% aujourd'hui. Et puis un gardien de la paix toujours entre la vie et la mort. Ce soir, un autre policier grièvement blessé et 3 fugitifs en fuite après la ultra-violente d'hier soir à Herblay dans le Val d'Oise.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h pour le Grand Journal de l'Info. Un petit coup d'œil au temps avec vous Anissa. Toujours du beau temps dans le sud demain au programme.
Oui, avec malgré demain matin sur le quart sud-ouest des bandes brouillard, des entrées maritimes sur le bord de la Méditerranée. Bah, malgré tout ça, après la dissipation de ces nuages bas, la journée sera plutôt belle. Le soleil va s'imposer sur la moitié sud demain. Un peu plus au nord des Pays de la Loire à la Lorraine, c'est une perturbation qui va toucher ces régions avec un ciel gris et des averse. À l'arrière de la perturbation sur le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, bonne nouvelle, le soleil est de retour
pas
demain.
Mal.
Ça sera des petites éclaircies, mais ça fait quand même du bien de voir un peu le soleil. Attention, le vent d'ouest souffle toujours au bord de la Manche. Les températures, 5 à 14 degrés demain matin, c'est doux, 5 à Aurillac, 14 à Paris et 14 à 24 dans la journée. C'est sur la moitié sud que les températures seront les plus douces, avec plus de 20 degrés en moyenne et 24 à Nîmes.
Tiens, étonnant, vraiment. Alors là, très étonnant.
Quelle surprise.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix avec ce soir Michel Cotta donc et Catherine Ney. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir
Julien.
C'est une annonce qui a fait son petit effet aujourd'hui dans la haute fonction publique. Des places seront désormais réservées aux candidats issus des milieux modestes. C'est ce qu'a indiqué la ministre Amélie de Montchalin et cela dès 2021. Il y aura donc des voies d'accès dédiées aux personnes issues de milieux modestes. Ça concernera l'ENA, la direction des hôpitaux, des postes d'administrateurs territoriaux, des commissaires, des magistrats. L'ascenseur social, a-t-elle dit, ne fonctionne plus, Catherine Ney.
Oui, elle prend pour exemple la promotion de l'ENA 2019-2020 où 76% des élèves ont des parents qui exercent une profession dite supérieure et qu'il y a seulement 1% d'enfants ouvriers. C'est moins qu'en 2006 où il y avait 4%.
Oui.
Donc il y a comme ça une...
1%, oui, 1% d'enfants de milieu ouvrier à l'ENA.
À l'ENA, voilà.
Voilà, tout est dit.
Tout est dit. Bon, mais que peut-on faire pour changer cet état de choses ? Alors, c'est vrai que
C'est une politique de quotas, en quelque sorte. Hein.
Oui, mais oui, enfin, on n'aime pas trop ce mot, mais la discrimination sociale, est-ce qu'elle peut être combattue par la suppression de la méritocratie républicaine ?
C'est-à-dire oui. que... Mais la méritocratie ne fonctionne plus, c'est quand même ça le
oui, mais,
l'état de fait.
Oui, mais est-ce que vous allez, par exemple, dans un concours à l'ENA, supprimer, comme il en est question, l'épreuve de dissertation dans lequel un élève peut montrer évidemment tout son raisonnement, sa capacité d'imaginer. Mmh. Et je veux dire, c'est une épreuve à bien maîtriser la langue, c'est très important. C'est une question qui se pose.
Oui, mais globalement, le programme et les oraux resteront les mêmes, puisque l'objectif, c'est que sur 700 élèves dans ces prépas, on monte, dit la ministre, à 2000. Avec donc des élèves issus de milieux modestes.
L'expérience a été tentée une première fois à Sciences Po.
Oui, depuis 2000.
Il y a longtemps, il se trouve que j'y étais associée avec le directeur Richard Descoings. Et que c'est moi qui fais passer les premiers examens.
C'est vous.
Enfin, nous étions un ou deux à faire passer les premiers examens, justement, de nouveaux entrants. Alors, il fallait voir que depuis la seconde, ces nouveaux entrants avaient fait savoir qu'ils voulaient faire Sciences Po dans leurs différents lycées. Donc, il y avait des lycées quand même tout à fait... Et que c'était très, très dur pour eux. Parce que quand ils disaient, quand ils étaient, vous voyez, en banlieue, et qu'ils disaient, on voudrait aller dans ce lycée parce qu'on veut faire Sciences Po, tout le monde se foutait d'eux. Mmh. Bon. Mais c'était des élèves qui travaillaient, mais comme des fous, comme des brutes, parce qu'ils avaient, je peux vous dire, un moteur par rapport aux fils de famille qui arrivaient et qui se disaient, on fait Sciences Po comme ça. Et le premier concours, à notre grande stupeur, à Richard Descoings et à tous ceux qui l'accompagnaient, c'était de voir que leur niveau était tout à fait, si je dis comparable, même parfois supérieur.
Parfois supérieur.
Et ce qu'on avait remarqué de plus formidable, c'est que alors que les jeunes gens de milieu aisé entraient comme ça, passaient leur concours, il y avait en revanche tous les professeurs de tous les jeunes qui venaient de seconde et des premières qui étaient au bistrot du coin en train d'attendre. Pour connaître si ça avait marché, etc.
Ouais.
Il y avait une mobilisation autour de... Alors,
donc vous dites ça marche,
écoutez, à Sciences Po, ça a très bien marché. Les élèves faisaient une tête pas possible pour le premier concours. Ils disaient comment, nous... Et bien, c'est quand même ça la méritocratie républicaine, à condition... Parce qu'on ne change pas les concours.
Je rebondis sur ce que disait Catherine Ney. L'idée, ça n'est pas de niveler par le bas, soyons bien d'accord. L'idée, c'est simplement de faire rentrer dans la tête d'enfants qui viennent de milieux modestes et qui ont les compétences pour faire ces grandes écoles, leur dire « ces écoles sont aussi pour vous ». Ça n'est pas réservé aux autres. Parce que c'est souvent quelque chose qui est ressenti comme tel. Les parents ou les enfants qui ont envie de faire ces grandes écoles disent « Non, c'est pas pour moi, ça c'est pour les fils de bonne famille, c'est à Paris, c'est à Bordeaux. »
Vous avez raison.
Oui,
très souvent,
Catherine Ney.
Non, mais vous voyez bien que, dans le fond, l'inégalité, elle se creuse dès l'école, dès la formation. Donc, il y a des inégalités dans les classes. Donc, pour inciter des jeunes à venir, il faudra faire une sélection parmi ces jeunes dans des classes. Donc, il y a déjà une sélection dans ces écoles, qui sera obligatoire. Oui. Parce que vous pouvez
les lycées,
pas...
par exemple.
Par les lycées.
J'ai utilisé le mot quota tout à l'heure. En clin d'œil à Michel,
mais
pas seulement.
Mais je pense que cette sélection...
Qui était un peu abusif, Catherine Ney, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de leur réserver des places, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes-là.
Voilà. Et moi, je crois qu'il y a une émulation, si on sait que dans certains lycées, on est venu chercher des jeunes parce qu'ils savaient bien travailler et que donc ils ont une capacité à s'émanciper. Ça donnera des idées aux autres. C'est-à-dire qu'il faut que dès l'école, on dise attention, si vous travaillez bien, vous aurez telle capacité à être présenté à des concours qui jusqu'ici vous étaient interdits parce que vous en aviez peur ou que socialement vous vous sentiez inapte à les présenter.
Donc c'est ça aussi
présenter.
La méritocratie, c'est d'aller voir un petit gamin et de lui dire toi, tu ne le sais pas encore, mais tu es capable.
Voilà.
Tu es capable
de rentrer. Et de lui ouvrir la voie, parce que ce serait si on lui ouvrait la voie après son bac, c'est trop tard. C'est l'ouvrir sa voie avant qui prennent ces dispositions avant. Et moi, j'avais remarqué que dans la promotion qu'ils étaient inscrites, les parents n'étaient pas tellement pour. Les parents avaient peur pour leurs enfants. Parce qu'ils étaient généralement à Garches ou à Meaux. Et que quand leur gosse leur avait dit « Nous, moi, je veux entrer dans ce lycée pour faire Sciences Po », les parents avaient dit « Est-ce que c'est vraiment utile ? Tu vas te poser, ça va être terrible. » Et c'était les enfants qui manifestaient.
Donc il y a un conditionnement social terrible dans ce que vous dites.
Ah, c'est,
ça veut dire que les parents avaient intégré que les enfants ne pourraient pas faire ces grandes écoles. Donc,
mais en disant « C'est pas notre monde, c'est pas notre milieu. »
Ça explique aussi qu'ils étaient d'autant mieux, d'autant meilleurs. C'est vrai qu'ils étaient vraiment...
Est-ce que, ça sera ma dernière question, Michel Cotta, est-ce que vous avez revu certains des enfants qui sont rentrés à Sciences Po par ce biais-là des années après ?
Oui.
Et alors ?
Ils ont dit que la première année avait été atroce.
Oui.
Mais vous savez, elle était aussi atroce pour moi quand je suis arrivée de ma province. Alors, elle a dit que la première année a été difficile, mais qu'après, les filles se sont intégrées très facilement.
Plus facilement
les
que
garçons. Les garçons, c'est plus dur.
De toute façon, les filles, elles sont toujours plus travailleuses que les garçons. Tout le monde le sait bien.
Ce n'est pas seulement une question de travail, c'est une question d'habitude, une question de milieu. Il faut prendre, prendre ses marques.
Une intelligence de la situation.
Et les garçons ont toujours plus de mal à oublier leurs marques et en prendre de nouvelles. Ce n'est pas le cas des filles.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le débat des grandes voix toujours ce soir, Michel Cotta et Catherine Ney à 18h41. On est toujours en direct évidemment dans le studio d'Europe Soir. Et après les grandes écoles et la haute fonction publique, on évoque maintenant ce débat qui suscite la polémique au sein de la majorité sur l'allongement du délai pour avorter. Le texte a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'étendre de 12 à 14 semaines le délai légal pour accéder à l'IVG, avec aussi la suppression de la clause de conscience, c'est important, des médecins qui ne veulent pas les pratiquer. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter la députée LREM de l'Isère, Émilie Chalas.
Chacun y va dans cet hémicycle de son « c'est un sujet grave, c'est un choix douloureux, une détresse ». Ça n'est pas le cas pour toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui ont choisi d'avorter, dont je fais partie. Elles le font en conscience, en liberté, et parfois coupable de ne pas se sentir en situation de drame. Arrêtons de culpabiliser les femmes qui avortent. Nous avons ce droit, arrêtons de ne pas l'assumer librement.
Voilà, alors pourquoi elle dit ça, cette députée de la majorité ? Parce que la gauche y est favorable à cet allongement de 12 à 14 semaines du droit à avorter. Les députés de la majorité, on vient de l'entendre aussi, mais le gouvernement lui temporise et semble hostile, à l'image de la prise de parole d'Olivier Véran aujourd'hui. Pourquoi, Catherine Ney, cette réticence du gouvernement sur cette question qui paraît ne pas poser de problème ?
Peut-être pour des raisons éthiques, tout simplement. Je crois que Emmanuel Macron, ça pose un problème. Je veux dire, avorter à 14 semaines, une femme est enceinte de 3 mois et demi. Alors vous me direz que dans des pays, en Espagne, c'est 14 semaines, en Grande-Bretagne, 24 semaines, ce qui veut dire qu'on est enceinte de 6 mois et on peut avorter. Dans les Pays-Bas, c'est 22 mois. En Suède, c'est 18 mois. Alors évidemment, en France, 12 à 14 mois.
C'est
14 semaines, c'est dans la normale, disons presque européenne.
Oui.
Mais pour des raisons.
Catherine Ney, la raison pour laquelle les députés de la majorité et les députés qui ont voté pour veulent cet allongement du délai légal, c'est parce que depuis la légalisation de l'avortement, qu'on rappelle en France en 1975, dans les faits, il est aujourd'hui pour plein de femmes difficile d'avorter dans le délai légal, car il y a un manque de praticiens et car il y a eu la fermeture de centres IVG.
C'est
la raison pour laquelle ils veulent étendre
ce
délai.
Mais au fond, derrière ça, il y a un problème politique. Bien sûr, c'est 14 semaines au lieu de 12. Beaucoup de gens, éthiquement, disent que 14, c'est épouvantable. Enfin bon, en réalité, ça se passe ailleurs comme ça. Mais on voit bien que cette partie du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, qui est issue du groupe de la majorité...
Oui. Ils sont 15, ils sont 15, dissidents.
Et il fait tout, ce groupe-là... Parce que c'est surtout eux qui ont déposé
une niche parlementaire.
Il fait tout pour paraître plus à gauche, pour être plus à gauche, et donc pour essayer de diviser le groupe de La République En Marche. Et c'est ce qui se passe. Ils ont fait cette proposition, et effectivement, il y a des gens à l'intérieur du groupe La République En Marche qui trouvent que 12 semaines, c'est suffisant.
Oui, mais quand même, les élus... Non, mais on constate Catherine. Que... Et ça, le gouvernement le découvre, et que Jean Castex aussi, c'est que les élus marcheurs, dans leur grande majorité, ont un libéralisme sociétal qui est sûrement plus prononcé que la moyenne des électeurs d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un fait. Et les femmes, ou qui sont il y a une qui sont pas majoritaires mais qui sont à égalité avec les hommes mènent là, c'est elles qui mènent le combat parce que eh bien elle voit bien que il y a des régions en France où on peut pas avorter.
Mais c'est la question que j'allais vous poser, il y a quand même une réalité. Moi j'ai vu que en France chaque année aujourd'hui, il y a entre 3000 et 4000 femmes hors délai, c'est-à-dire qui dépassent ce délai des 12 semaines, qui sont forcées de partir avorter à l'étranger, c'est ce que raconte un
mais il y en a 232 000 avortements par an en France en ce moment. Cette année il y a eu
14, au-delà de 14 semaines, peut-être que ce serait le même problème. C'est des jeunes femmes qui s'y prennent trop tard, qui essayent de se cacher la vérité ou de cacher la vérité aux autres.
Il y a quand même un problème d'accès à l'IVG. J'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le service public sur France 2. Il y a quand même, c'est vrai, dans certains territoires, un problème d'accès
à l'IVG. Alors, là où les médecins,
Le problème aussi, c'est que quand on est passé en 2001 de 10 à 12 semaines le délai, eh bien là, les médecins ont... ont arrêté de faire des avortements. Ils ne voulaient pas. Alors, est-ce que là, on peut les obliger ? Alors, c'est vrai que dans chaque hôpital...
Pas tous les médecins, mais le conseil de l'ordre, est réputé être plutôt conservateur.
Oui. Mais enfin, il y avait beaucoup de médecins qui ne voulaient pas. Donc, est-ce qu'on peut obliger, dans un hôpital, un médecin à faire un avortement s'il ne veut pas le faire ? Est-ce qu'on peut donner ce rôle ?
Ce sera le cas demain, Catherine, parce que le texte qui a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée, il y a aussi la suppression de la clause de conscience des médecins qui ne veulent pas les pratiquer. Quand même quelque chose de particulier.
Oui, moi je trouve ça très compliqué. Franchement, la liberté de conscience d'un médecin face à ça, la loi Veil la prévoyait.
Oui.
Et je ne crois pas que ce soit à cause de ça que beaucoup de femmes aient du mal à trouver de quoi se faire avorter. Je crois que c'est pas ça. C'est vraiment pas la liberté des médecins. C'est peut-être que certains ne veulent pas le faire. Et moi, je trouve ça tout à fait normal, après tout. Souvent, c'est bien plus parce qu'elles sont en retard que parce qu'elles trouvent pas de médecin.
Oui.
Que ça se passe.
Voilà. Sur un territoire très rural, ça peut poser question quand il n'y a qu'un médecin qui ne veut pas avorter.
Et puis quand on n'ose pas le dire à ses parents, etc.
Si le médecin
ne
veut pas avorter, on fait comment ?
J'entends bien, mais quand même, la liberté de conscience, moi, de ce point de vue-là, c'est idiot, on est peut-être un peu rétrograde, mais la liberté de conscience, en tout cas, moi, les 14 semaines, ça me va, mais la liberté de conscience...
On continue d'en parler dans quelques secondes, 18h47, à tout de suite avec Michel Cotta et Catherine Ney.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours ensemble pour le débat des grandes voix avec Michel Cotta et Catherine Ney. Ce soir, on évoque notamment ce débat qui a suscité la polémique au sein de la majorité sur l'allongement du délai pour avorter. Le texte a été adopté. Étendre de 12 à 14 semaines le délai légal pour accéder à l'IVG. Il y a une forte opposition chez certains députés, à l'image de cette députée Agnès Thil, plutôt anti-avortement, mais qui affirme et qui défend cette position. Écoutez-la.
Avorter tardivement à plus de 3 mois de grossesse est très violent pour les femmes, d'autant sur le plan médical, l'IVG est rendu plus complexe compte tenu de la plus grande taille du fœtus. D'où vient la limite de 14 semaines qui est avancée au lieu de 12 ? Pourquoi pas 16 jusqu'à 19 ? À 14 semaines, le bébé mesure presque 14 cm pour près de 100 grammes. Les proportions de son corps s'harmonisent, le squelette se solidifie, l'ossature se forme. Il peut plier ses doigts, serrer les poings ou sucer son pouce.
Bien, c'est un argumentaire qu'on a déjà entendu au moment de la loi Veil. Mais est-ce qu'il y a un point de bascule entre 12 et 14 semaines ?
Oui,
c'est ce
qui met en avant cette députée. Il y a, je crois, un point de bascule qui est que la tête est davantage ossifiée. Donc, il faut procéder autrement.
Mais les Espagnols, pays très conservateur, 14 semaines,
bien
on le disait
14,
tout à l'heure.
Et les Pays-Bas, encore 22, ils sont 22. Moins conservateurs.
Et la Grande-Bretagne, 24 semaines.
24
donc, finalement, ça, c'est un mauvais argument. Parce qu'on agit autrement, on ne peut pas faire de la même façon. Je ne suis pas médecin, mais encore moins avorteuse, mais on ne peut pas agir de la même façon, mais on peut le faire à 14 semaines, parce que les arguments qu'on entend là, c'est ce qu'on entendait développer par la droite au moment où Simone Veil soumettait sa loi. Je rappelle que la loi Simone Veil a été votée par la gauche.
Oui.
Oui, mais elle disait aussi que ça ne devait pas être un moyen de contraception. L'avortement. Oui. Là, elle le disait, elle le redisait.
Je pense que tout le monde est d'accord.
Comment tout le monde est d'accord, mais on voit bien aujourd'hui. Il y a 40 fois plus d'avortements chez les femmes qui sont en difficulté économique, qui ont peur de l'avenir, qui se disent je ne pourrais pas assumer un enfant toute seule ou un nouvel enfant. Donc c'est pour des raisons aussi économiques qu'on peut comprendre et de peur de l'avenir.
Oui. Avant, on les laissait, on abandonnait les enfants dans les églises. Maintenant, effectivement, les femmes qui savent qu'ils ne peuvent
pas,
qu'elles ne peuvent pas.
Mais vous, votre conviction, Michel Cotta, 14 semaines, 12 semaines, ça change quelque chose?
Non, pour moi, non. Pour moi, non. Je trouve que le terme de 14 semaines n'est pas du tout impossible et que c'est sans doute pour l'Europe le plus équilibré.
Oui, parce que le droit à l'IVG, c'est d'abord le droit pour les femmes, on le rappelle, à disposer de leur corps. C'est ça, l'essence même de la loi Veil de 75.
C'est ça, mais c'est vrai que Catherine a raison de dire que pour Simone Veil, ça n'empêchait pas qu'on fasse, qu'on fasse appel au planning familial. Vous savez, c'est idiot, c'est un mot qui a disparu.
Oui.
Mais c'était, on prenait des pilules pour éviter. Oui. C'était quand même mieux, plus facile qu'un avortement. C'est ça qu'on veut dire, c'est pas automatiquement par ce seul biais-là qu'on peut mettre fin. On peut aussi ne pas donner, prendre des pilules pour ne pas donner naissance à quelqu'un.
C'est un combat que vous avez connu l'une et l'autre.
Oui,
c'est vraiment le nôtre.
Oui, c'est notre combat, oui. On trouvait ça très bien. On trouvait que c'était après la pilule qui a été la première. C'est la première fois que pouvaient les femmes, c'était un enfant quand je veux avec la pilule. Est-ce que l'avortement, c'était un autre débat.
Hein,
c'était après l'après-pilule. C'était plus. Si vous voulez, la pilule avait beaucoup gêné les hommes parce qu'ils sentaient qu'ils le perdaient la maîtrise, les femmes leur échappaient. Oui. L'avortement, évidemment, la plupart étaient contre, mais ils voyaient ça sur une chose.
Catherine, si vous me permettez, il ne faut pas trop mélanger les deux, parce que ce n'est pas un moyen de contraception non plus, l'IVG.
Non, justement,
c'est justement.
Je voudrais savoir, moi, où en sont les statistiques, et je dois dire que je ne les ai pas, sur les femmes qui continuent à prendre des pilules. Je crains que beaucoup s'en abstiennent, justement en se disant, après tout, s'il arrive quelque chose, on sera avorté. Et ça, franchement, c'est vrai que c'est mieux de prendre
des pilules. Non, mais elles s'en abstiennent parce que beaucoup de pilules de la 4e et 5e génération ont été mal accepté par les femmes. Donc, il y a une peur de prendre la pilule. Donc, il y a de moins en moins de jeunes femmes qui prennent la contraception parce qu'elles ont peur de grossir, parce qu'elles ont peur d'être malades, parce qu'on leur dit que le cancer du sein, peut-être, je veux dire, ça peut les... Il y a eu toute cette peur. Donc,
et puis, c'est un traumatisme terrible. Oui. Enfin, pardon, mais pour les femmes, d'avorter, c'est pas complètement anodin. Donc, de dire que c'est un subterfuge à la...
C'est aussi le poids que la société met autour. C'est aussi le poids que la société met autour, mon Dieu.
Oui, mais statistiquement, il y a 232 000 avortements par an en France et on s'aperçoit que les femmes qui avortent ont souvent déjà avorté une ou deux fois. C'est quand même statistiquement...
Ça veut dire que ce n'est pas une pression colossale, qu'elle la supporte en tout cas, cette pression colossale.
Alors le Collège national des gynécologues et des obstétriciens français, il est opposé, lui, à cet allongement du délai du droit à l'IVG. Son président, le professeur Israël Nizan, dit on ne peut pas compenser le manque d'accès à l'IVG par l'allongement du délai, car on accroît le risque du geste. Donc il ne parle pas du fœtus, évidemment, comme cette députée qu'on a entendue, mais il dit, après 14 semaines, il y a un risque. Il y a un risque pour la femme.
C'est peut-être plus violent, effectivement, au bout de 14 semaines, mais moi franchement, je n'en suis pas sûr.
Moi, je crois que c'est plus violent pour les praticiens qui doivent le faire. Et ça augmente les réticences, voilà.
Bien, merci à toutes les deux. Michel, j'en profite pour saluer votre livre paru aujourd'hui. Ça s'appelle « Le brun et le rouge ». C'est avec Robert Namias, qu'on connaît bien ici à Europe 1, aux éditions Robert Laffont. C'est un roman de politique-fiction, c'est cela ?
Oui, politique-fiction.
Qui nous projette en 2025 ?
Voilà, les populismes ont gagné.
Les populismes ont gagné. C'est un peu Houellebecq, d'une certaine manière. Merci Michel Cotta. C'est donc à découvrir aux éditions Robert Laffont. Ça sort aujourd'hui dans toutes les meilleures librairies. Merci Catherine Ney.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, on se retrouve dans quelques secondes avec le débat du Club des idées. Comment faire face à l'explosion de la pauvreté post-Covid ? On en parle avec nos invités.